Coucou la MIF, micro promo pour vous dire que je repars en tournée de blagues. Je suis en train d'écrire le nouveau spectacle. Je le jouerai en rodage de janvier à mars à Bruxelles, tous les jeudis au Petit Kings. Ensuite, tournée de rodage en France, Marseille, Grenoble, Aix-en-Provence, Reims, Chambéry, La Rochelle et plein d'autres. Puis direction Paris d'octobre à décembre, tous les mercredis et jeudis au Zèbre de Belleville. C'est une salle trop trop belle où il y a une tyrolienne pour arriver sur scène. Est-ce que c'est pour ça que j'ai voulu jouer là-bas ? Vous n'avez aucune preuve. Donc venez, franchement ça va être marrant. Toutes les dates sont sur mon site fannyruet.com. Il y a aussi les liens pour les tickets. Donc voilà, j'ai trop hâte. Des bisous. Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent.
Il y a des gens, ils pensent qu'il y a une hiérarchisation des races et tu peux pas les aider. Tu peux discuter un peu avec, par A plus B, tu lui prouves que c'est des conneries. Mais il pourra pas changer d'avis quoi. Et c'est pour ça que je te dis, des fois, il y a des gens, ils sont cons. Moi, c'est ma mère, elle me dit, le plus dur, c'est d'accepter les cons. Elle dit, le djihad, c'est de tolérer les cons sans jamais leur mettre de gifles. Moi, je pourrais pas, moi. C'est sûr, je vais aller en enfer, maman. Je suis obligé de l'insulter, lui. C'est dur, hein. C'est dur de tolérer la connerie.
Dans ce nouvel épisode, je reçois Mourad Winter. Alors Mourad, il a fait du stand-up, mais il est avant tout auteur. Il a écrit des farces pour pas mal d'autres humoristes. Moi, j'ai découvert sur Instagram où il poste des blagues absolument atroces, mais évidemment hilarantes. Et puis il y a quelques mois, en fait, il a annoncé qu'il allait sortir un roman. Et pendant vraiment plusieurs semaines, j'ai cru que c'était une blague qui allait très très loin. Mais non. Il a bien sorti son premier livre, L'amour c'est surcoté, chez Robert Laffont. Et c'est le bouquin le plus drôle que j'ai jamais lu, honnêtement. J'ai dû m'arrêter souvent dans la lecture, tellement le débit de vannes était fou. L'histoire, elle est toute bête. C'est un gars qui rencontre une fille et qui se dit « Ok, j'ai 30 jours pour coucher avec ». C'est un peu beauf, souvent, vraiment souvent, mais c'est hilarant et il y a évidemment des moments plus tendres. C'est super et d'ailleurs, ce sera bientôt adapté en film chez Iconoclast. Et donc, j'avais très envie de discuter de tout ça avec Mourad. Donc, on s'est posé tous les deux chez Olympia Productions et on a parlé de plein de trucs, de pourquoi il a arrêté de monter sur scène, de rire de tout et donc de potentiellement passer pour un énorme connard, du fait qu'il critique plein de choses auxquelles il participe quand même. Par exemple, il se moque souvent des émissions de télé, pas ouf, mais il a bossé pour Touche pas à mon poste et il l'assume totalement. On est revenu sur un truc qu'on déteste tous les deux en stand-up. On a parlé du fait qu'il est très drôle, mais pour très peu de gens, de son talent en mensonge, parce que des fois il finit par croire lui-même à ses mythos, d'à quel point c'est dur de supporter les cons. Et puis on a aussi parlé de chiens qui ont un compte Instagram et de pommes de terre nazies. J'espère que tout ça vous plaira.
Hop. Y a pas de retour ? Test, test ! C'est où ? Oh, dédicace ! Planète ! Oh, le gars insupportable. Désolé, c'est le matin, j'ai besoin de me réveiller. Du coup, il faut que je fasse le Golemont.
De toute façon, je m'attendais pas quand j'ai dit à Émilie et tout, demain j'ai Mourad. Elle m'a dit, oh putain, ça va être autre chose, c'est avec Guillermo. Ça va être drôle.
Pourquoi Guillermo, c'était barbant ?
Non, non, c'était pas du tout barbant, mais c'est la tête, quoi.
C'est les gens qui doutent.
Oui.
Oui, et voilà,
là,
c'est ça.
Là, c'est la dette.
Ah oui, à ce point.
Genre, il m'a dit depuis l'épisode d'hier, et depuis, il a reçu vraiment des dizaines de messages de gens qui lui disent « Mec, ça va aller, est-ce que...
» Ça me fait rire, moi, la dépression, tout ça, ça me fait rire.
Ok, bah tu vas redire ça dans le micro.
Ouais, non, ça me fait rire parce que je pense... Ouais,
non, mais vas-y,
je pense avoir été en dépression, mais je sais pas. Parce que j'ai une carapace tellement épaisse que je sais plus ce qui est dépression, je sais plus ce que je ressens, est-ce que j'ai peur, je sais plus. Mais bref, c'est la vie. C'est à cause de mon père quand il m'a touché la bite. En fait, il m'a touché la bite et là, à partir de là, tout a changé dans ma vie. J'avais plus les mêmes sensations, je croyais plus en rien.
Je vais évidemment mettre ça comme teaser, comme si c'était premier degré.
Ouais. Quand son père lui a touché la bite. Reportage édifiant.
Ok, mais du coup, ça a commencé bien, mais...
Ça y est, ça enregistre, là ?
Ouais.
Ok, vas-y.
Non, mais tu dis, tu sais pas si t'étais en dépression ?
Ouais, non, je dis, je vois plein de gens en ce moment qui parlent de dépression, ouais. Tu sais, en mode, ouais, ça va pas. Beaucoup d'artistes, d'influenceurs aussi. Mmh. J'ai l'impression que c'est devenu un business.
Ouais, ouais, c'est vrai.
Tu vois, c'est comme les influenceuses qui disent toutes... Ouais, j'ai eu une grossesse difficile et pendant 3-4 mois, elles vont teaser sur leur grossesse difficile pour créer du contenu.
Teaser.
Ouais, je te jure, elles teasent là-dessus. Accouchement difficile. Bah ouais, mais c'est la base de l'accouchement d'être difficile. Donc déjà,
Hâte de spoiler, on connaît la fin, tu vois. C'est déjà dur. Et il y a ce truc de toujours essayer de. Maintenant, c'est un peu un business de dire que tu vas mal. Et ouais. Mais je sais pas. Après, maintenant, le problème, c'est comme c'est le gars qui crie au loup et il y a pas de loup. Et un jour, quand tu auras le loup, tu fais ah ouais, t'es con, Michel. Et ben là, c'est ce qui se passe. Il y a tellement de gens qui font du business sur la dépression, sur le fait de se sentir pas bien en tant qu'artiste. Maintenant, dès qu'un artiste il va me dire ça, j'ai envie de lui dire, je sais pas si c'est vrai. Tu vois, j'ai des doutes là-dessus.
Ouais, mais je pense qu'il y a un truc aussi de, c'est tellement devenu ok de le dire que ouais. Dès que c'est le cas, tu le dis. Sauf que, enfin, tu vois.
Mais
parce que souvent les gens vont pas bien.
Ouais,
en vrai.
C'est vrai que les gens en fait à la base, mais c'est comme on a tout déconstruit ces 10 dernières années.
Est-ce qu'on n'aurait pas tout reconstruire?
Faut tout reconstruire sur le fait de ne pas communiquer. Ne pas discuter, voilà, ça va mal, je veux pas savoir, salut, vrai, t'imagines?
On refait une société comme ça où personne se parle. Tu fais pas ta
chochotte. Ah, c'est bon, casse pas les couilles, ça va. On a tous déjà perdu ses parents. Le mec, vraiment
pas
un connard,
mieux, quoi.
Yes.
Non,
mais ouais, c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens en dépression. Et moi, pour, comme je te disais en off, je sais pas si j'ai déjà été en dépression. Je le pense, parce que j'ai eu des effets physiques. Moi j'ai eu des zonas. Tu vois le zona c'est
le truc rouge.
Bah en fait ça dépend, moi ça me prend en bas du dos et en fait c'est toute une ligne de c'est un nerf qui enfin ça explose, moi ça explose vraiment dans mon corps. Okay. Et en gros le zona c'est je crois que c'est la comment s'appelle la maladie avec tous les boutons là
la varicelle.
La varicelle
du cul.
Bah, ouais voilà. C'est la varicelle qui se réveille genre plus tard et normalement les zonas c'est passé 60 ans. Ouais. Tu vois, c'est genre ton corps, il a oublié la varicelle, et du coup, bah là, ça revient, et tu chopes une varicelle, et ça te fait un zona. Et moi, j'ai eu déjà deux zonas, et on m'a dit que c'était le stress, la panique et tout ça, et c'est tombé pile au moment où, à chaque fois, j'ai eu mes enfants, parce que j'ai deux enfants. Vraiment, c'est quand j'ai eu mes enfants, le stand-up, le taf, tu sais, tous ces trucs-là réunis, d'un coup, bah, explosion, zona, hôpital et tout, la totale, quoi.
Ah ouais?
Ouais, je te jure. C'est pour ça que je pense que je fais des dépressions tellement cachées qu'à un moment donné, mon corps, il fait « Wesh, vas-y là, fais une vraie dépression, frère !»« Vas-y, fais comme tout le monde, prends des Xanax et plains-toi » Et comme je me plains pas, et ben...
Tu te plains jamais?
Non.
Pourquoi?
Non, je sais pas. C'est, ça sert à rien, je trouve. Tu vois, je préfère me plaindre peut-être à l'écrit, tu vois. Après... se plaindre de la vie, de tout ça. Moi, je pense qu'on a des... Après, c'est, voilà, c'est comment moi je vois les choses. Je trouve qu'on a des belles vies en Occident, tu vois. Donc, j'arrive pas à me plaindre. C'est très terre-à-terre. Hein. Mais ouais. C'est vraiment ce truc de « Hey, mange tes légumes, il y a des enfants en Afrique qui ils ont faim. » Et ben moi, c'est comme ça tous les jours. Yes. Tous les jours, je pense aux enfants en Afrique. La vie de merde, t'imagines le gars? Toute ta vie,
putain,
t'es là, tu penses aux enfants.
Les gens vont dire, putain, mais il est mielleux, en fait, ce type.
Non, mais vraiment, tous les jours, à chaque fois qu'il y a un truc négatif qui m'arrive, bah, je suis, allez, c'est pas grave, allez. Allez, on passe à autre chose, vite.
Et t'as pas peur qu'un jour, genre, ça grossisse?
Si, mais moi, je sais, à 40 ans, je vais faire une dinguerie. Genre, soit une tuerie de masse... Soit je vais quitter ma femme, les gosses, je me retrouve avec une pute au Mexique. Je sais, il va y avoir un truc comme ça. La crise de la quarantaine va être incroyable. Mais pour l'instant, ça va.
Tu pourras m'inviter.
Direct, ça va être le feu.
Putain, mais l'épisode, comment il va décoller après ta tuerie?
Oh là là, oh, ils vont dire, ah ouais, il avait teasé. Oh. Ouais, mais il a spoilé le bâtard. Donc, ouais, je pense vraiment qu'à un moment donné, je vais faire une vraie dépression comme tout le monde. Mais ça va être, je sais pas ce que je vais faire, ça va être... Ouais, ça va, je sais pas, on va voir, on verra. Rendez-vous dans 6 ans.
Ah putain, t'as déjà 34.
34, ouais. Mais les gens, ils ont pas l'impression que j'ai 34.
Non, 28.
Ouais, mais c'est comme parce que je m'exprime comme un gommon. J'ai toujours des casquettes, des trucs, du coup. Les gens se disent, ouais, il est jeune et tout, mais ouais, 34.
Mais en même temps, tu te fous toujours dans des situations où tu cherches la merde.
C'est excitant. Les problèmes, c'est trop bien. Parce qu'en fait, c'est pas des problèmes. Qu'est-ce que tu veux dire par « je cherche la merde » ?
Déjà, t'as eu tes gosses, tu t'es dit « vas-y, j'arrête la télé, je me lance dans le stand-up ».
Ouais. C'est, je me suis dit « vas-y, difficulté, allez, on y va ». J'ai fait « là, c'est bien, je m'amuse, c'est cool, je suis heureux ». En fait, je suis monté sur scène, j'étais heureux. Contrairement à beaucoup d'artistes qui montent sur scène parce qu'ils sont malheureux. Genre 99% des artistes, à mes yeux, enfin des stand-uppers, stand-upers, stand-upers, parce qu'il faut vraiment arrêter de j'ai des problèmes récemment.
Mais ouais, mais c'était quoi ce gate? Parce que moi, j'étais en cure Instagram et donc je suis arrivée juste pour les excuses.
Qu'est-ce que c'était drôle.
Et j'ai pas compris ce qui s'est passé.
Non, en fait, moi je vanne tout. Tu vois, pour moi tout est drôle. Et il y a un truc qui m'excite, c'est comme le rapport des humoristes avec leur carrière. Je trouve que les humoristes, ils rigolent de tout. On a ce truc de ouais, mais c'est notre métier, blablabla. Mais derrière, dès que tu parles un peu de carrière, d'évolution, du fait que bah ça décolle pas ou que ça décolle bien, et ben il y a un truc très sérieux, très genre non mais là je te permets pas, tu vois. Et du coup bah moi dès qu'il y a un truc qu'on faut pas faire, je sais pas, ça m'excite, c'est trop drôle, tu vois. C'est vraiment drôle. Dès que les gens ils sont dans leur dernier retranchement, t'as envie d'y aller. Et ce qui s'est passé, c'est que y a une nana, donc je tairai le nom, tu vois, qui a posté il y a eu un comedy club, c'était leur première. Ils ont mis 11 gars. La vérité, c'est que bah ils auraient pas dû. Je suis assez d'accord moi sur le fait qu'il faut mixiter tout ça. Je suis entièrement d'accord. Mais ils ont essayé d'avoir des nanas au niveau. Ils ont pas eu des nanas au niveau qui étaient pas disponibles. C'était fin juillet. Il y a eu ce truc là de bon bah ils se retrouvaient avec 11 mecs.
Mais il y a pas beaucoup de meufs. Il y a pas de au niveau alter. Enfin médian. Il y a pas beaucoup de meufs.
Je suis assez d'accord.
Huge, soit elles ont pas encore assez.
Mais je suis totalement d'accord avec ce truc du, c'est soit elles sont vraiment très fortes, soit et ben c'est pas encore au niveau, c'est tout. Et là il y avait pas de nana très forte pour ce plateau ou pas disponible parce que y a des nanas qui pouvaient pas, tu vois. Et ça a commencé à une humoriste qui a essayé de créer un genre de buzz. Ouais mais regardez, vous avez pas honte, et qui mentionne les 11 mecs. Genre vous avez pas honte les gars? Les gars, ils ont rien fait, c'est pas de leur faute, ils viennent jouer sur un plateau. Mmh. Et du coup, moi, voilà, ça m'a énervé parce que je supporte pas déjà la délation où tu vas donner des noms d'humoristes. Et puis en plus, sois fort. Tu vois, si t'es pas forte et que t'ouvres ta gueule, pour moi, c'est pas. Et c'est toujours comme ça. Moi, j'ai toujours remarqué dans tous les domaines, c'est toujours les nullos qui ouvrent leur gueule. Non mais tu vois, c'est toujours les gens qui sont pas au niveau qui ouvrent leur gueule. Et moi le premier. Moi quand j'ai commencé le stand-up, c'était pas ouf. Enfin les vas-y, le premier mois c'était bien, et après tu connais le stand-up, tu commences, t'es content.
Ouais.
Et après il y a une
stagne,
pendant un an moi c'était.
J'ai pas encore fait l'Olympia, ça fait déjà 3 mois.
Oh là là. tu au début t'as un ego surdimensionné pour le premier mois, les premières scènes où tu dis ça va être facile en fait. Et en fait après c'est tu commences à te poser des questions. Et c'est là que tu commences vraiment, à force de te poser des questions, tu deviens nul. Et moi le premier. Moi le premier, au début, j'étais là en mode, ouais, pourquoi je joue pas sur les plateaux de 20h, je m'embrouille avec le patron du Paname et tout. Et en fait, bah non, j'étais pas bon. J'avais pas le niveau, c'est tout. Et c'est toujours comme ça, c'est toujours les gens qui sont pas au niveau, qui se plaignent le plus, qui vont ouvrir leur gueule, qui vont gna 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 gna. Alors que les, et moi, pour moi, enfin, je veux dire, là, il y a des posters quand même, on est dans un bureau, il y a des posters, il y a Marina Rollman, il y a Mel Habedia, il y a Florence Foresti. Mais moi, j'ai jamais entendu ces nanas-là dire « Ouais, pourquoi je joue pas sur tel plateau ?» Parce qu'en fait, elles sont fortes. Point barre. Quand t'es fort, on t'appelle. Et je suis pas sûr que ça soit... Là, c'était le débat, c'était un peu genre du misogynisme professionnel. Moi, je suis pas sûr que ça soit ça. Par contre, là, il y a un débat parallèle et je le trouve vraiment important, c'est comment le public accepte les vannes des meufs. Ça, c'est autre chose. Et ça, je trouve que c'est super inquiétant de voir une blague de cul sortie de la bouche d'une nana ou d'un mec commence à accepter par le public. Un mec, quand il va la faire, on va dire ouais, c'est drôle, un peu beauf, ça va. Quand c'est une nana, la moitié du public va être un peu gêné en mode c'est vulgos. Ça, c'est intéressant. Moi, ça m'intéresse vraiment. Et je pense qu'il est là, le truc, c'est d'éduquer, entre guillemets, éduquer hein, le public à accepter des vannes qu'elles viennent de la bouche d'une nana ou d'un mec. Moi, ça, je trouve que c'est intéressant. Et il est là, le vrai problème.
Mais en fait, là, j'ai l'impression que un des soucis aussi, c'est que y a pas, on est un peu dans un gap de génération où il n'y avait pas assez de modèles féminins.
Ouais.
Et du coup, là, la prochaine génération, dans 5 ans, j'ai l'impression qu'il y aura full meufs qui seront hyper douées et tout. Mais là, les modèles, ils n'étaient pas encore là, donc...
Bah oui, mais en même temps, t'as quand même eu... on a des rockstars en France. Enfin, Muriel Robin, Anne Roumanoff, Florence Foresti, Michel Larocque.
En stand-up.
Mais en stand-up, c'est relativement nouveau. Ça a 15 ans, le stand-up en France. Ça a été amené par le Jamel Comedy Club.
Ouais,
ça,
ouais,
c'est,
mais...
Tu vois, c'est pour ça que je trouve, moi, que c'est...
Mais toute cette génération-là, il n'y a pas de meuf, à part Blanche.
À Blanche, il y a Amel. Mais déjà, dans la sélection... de base, il y avait que Blanche et Amel, tu vois. Donc, enfin, il me semble. Ça se trouve, on oublie Nana, ça se fait pas.
Ah, je sais. Mais moi, j'ai pas suivi. Moi, j'ai du complètement. Tout les...
Ça se trouve. Alors, je suis désolé si j'oublie quelqu'un, mais je pense pas. Mais sur cette première génération là, bah ouais, aujourd'hui, bah elles sont là, tu vois. Elles étaient au niveau, elles sont toujours au niveau, et je veux voir au-dessus de la mêlée. Enfin, Blanche, clairement, elle est au-dessus de la mêlée, quoi.
Elle est. Tu vois. Même plus du stand-up, quoi.
Et ça, c'est... et ça a rien à voir avec le fait qu'elle a un vagin ou pas. Elle est forte. Donc moi, je pense ça. Je suis persuadé, et quand j'ai vu sur les réseaux que ça commençait à parler sur ça, bah je dis non, je suis pas d'accord avec ça.
Et donc qu'est-ce que t'as fait ? C'est ça. Est-ce que
bah,
là
du coup,
ça
j'ai fait j'ai fait une vidéo où j'ai critiqué cette personne, enfin où j'ai dit t'es nul point barre.
Putain,
vraiment un fils de pute. Mais quand je suis dans ma voiture, je suis une merde. Vraiment, je suis humainement mauvais. Quand je suis dans ma voiture, je suis une autre personne. Et j'étais là, je faisais une vidéo, et après quand je regardais la vidéo, je me suis dit oh, putain, qu'est-ce que j'ai envoyé le connard. Et du coup derrière, j'ai appris, mais en fait je savais qu'il y avait un genre de groupe WhatsApp où toutes les meufs du stand-up étaient un peu répertoriées, on va dire, et ça s'envoyait des plans de plateaux, des trucs comme ça, que je trouve, moi j'ai aucun problème avec ça, mais ça a commencé parce que moi j'ai mes taupes, j'avais plein de meufs dans le groupe qui me renvoyaient des screens du groupe et je me faisais allumer, tu vois. Et c'était drôle, et du coup, bah, j'ai joué un peu là-dessus, je faisais genre, écoutez les filles, vous embrouillez pas pour moi, je vais créer un autre groupe pour vous, sans les taupes et tout. Donc c'était un peu un truc d'enculé, mais c'était, en fait, ça m'a fait rire le fait d'être un enculé. C'était drôle, mais et puis c'est tout quoi, ça va, c'était pas méchant, et puis ça s'est bien passé, et puis non, il y a pas de... Puis moi, après, dès que je chope un fil, après je le tire au maximum, tu vois. Je vais créer, et puis je crois on était le 28 juillet... Ouais. Je partais deux jours plus tard en vacances, j'avais rien à faire. J'étais en mode, oh, vas-y, amuse-toi. Tu fais tes valises, tu fais, vas-y, tout de suite. Hein. Là, j'ai rien à faire, je vais faire des bêtises, quoi. Donc, ouais, c'était pour faire le con. Mais c'est ça mon problème après, moi, c'est que j'aime bien faire le con sur tout le monde.
Ouais, mais c'est ça qui est assez. Que je trouve fantastique et en même temps que j'ai encore un peu du mal à cerner.
Ouais.
C'est que vu que tu te fous vraiment de la gueule de tout, des fois. Genre, tu bitches sur plein d'émissions pour lesquelles t'as bossé.
Ouais.
Tu bitches sur le Paname alors que t'y as bossé, que t'y es souvent. Et du coup, je suis comme, oui, mais pourquoi tu le fais alors ?
Alors, je... déjà
genre,
quand...
t'as bossé pour Touche pas à mon poste.
Ouais, ouais. J'ai bossé pour eux. Et déjà, quand je bossais pour eux, je bitchais pour ça. Parce qu'en fait, moi, quand je bosse, ça touche pas à mon poste. Pour moi, c'est une opportunité de voir quelque chose que je connaissais pas. Je bossais pas en télé. C'est ma première proposition en télé. Je me suis dit, tiens, je vais bosser. Ça va être quotidien. Je vais faire du pognon. Je vais vivre de ça. Et parce que ce qu'il faut pas oublier, ça, hein, tu vois, je vivais de, c'était quelque chose qui m'intéressait. J'avais envie de changer de secteur parce que j'avais été, déjà j'écrivais pour dans l'humour, mais j'avais envie de voir autre chose, quoi. Parce que j'avais eu un resto, plein de trucs, j'ai fait 1000 trucs moi dans ma vie. Laisse tomber, ça va durer, il peut durer très longtemps ce podcast.
Mais tu sais que moi, je te connaissais pas avant, il y a un an, genre, et c'est Thomas Wiesel qui m'a parlé de ça. Et le premier truc qu'il m'a dit, c'est le cofondateur de la pataterie. J'étais là, oui, mais on parle. De l'engager pour écrire des blagues. Mais oui, mais il est drôle. Ah, ok.
Non, j'ai jamais co-fondé la pataterie. C'est une rumeur que j'ai lancée. Et ça,
quoi c'est... c'est vrai?
Je te jure, j'ai pas fondé la pataterie. C'est du mytho. J'ai vraiment menti
T'as
sur le réseau.
Aucun rapport avec la pataterie.
Zéro. C'est juste le nom, la pataterie me fait rire. Je me suis dit, on va faire croire que je suis fondateur. C'est tout. Et en fait, à la base, j'avais mis ça en bio parce que je trouvais drôle. Tous les gens qui en bio disent co-founder alors que l'autre. Il habite en France et il emploie le co-founder. Arrête! Tu me parles d'une librairie, frère. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu parles en français déjà. Et donc, l'idée, c'était de me foutre de la gueule de ça, tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui ont cru que j'étais vraiment le fondateur de la pataterie. Je dis, vas-y, tranquille. Bon, moi, tu tombes dans le panneau, je vois, vas-y, allez. On y va à fond. Il hein. y avait ça, Égérie Saint-Agur. À un moment donné, je dis que c'était Égérie Saint-Agur.
Ouais.
C'était une vanne. Et genre, Saint-Agur me contacte. Ça serait bien qu'on fasse un partenariat, tout ça. C'était trop drôle.
Tu l'as fait?
Non, jamais. Bah non, je fais pas de partenariat.
Jamais?
Non, je veux pas.
Pourquoi?
Parce que je veux pas être assimilé aux influenceurs déjà.
Ouais, tu mais vois, tu vas promouvoir une marque en la défonçant.
Bah, en plus, je vais pas être. Je vais vouloir faire le Golemon, ça va. Enfin. Je sais pas, il y avait un truc malsain et que je trouve. Malhonnête avec ma ligne éditoriale, à savoir être un Golemon. Et du coup, je peux pas même accepter de l'oseille pour des trucs de... On m'a proposé même aller bouffer dans un restaurant, faire des stories, des trucs comme ça. C'est con, mais juste ces trucs-là. Je viens, je paye. Si tu veux, je fais un truc pour toi parce que je te connais, mais jamais je mangerai gratuitement pour de la pseudo-visibilité ou autre, tu vois. Okay. C'est vraiment un truc qui me... C'est pas mon délire.
Ok.
C'est pas mon délire, mais on était à où juste avant?
La
digression, elles sont belles.
Touche pas mon poste.
Ouais, touche pas mon poste, je fais... Au début, je connais pas trop. Vraiment, on me parle des nouilles dans le slip, tout ça. Je me dis, bon, on va voir. Et de l'intérieur, je me rends compte qu'en fait, tu peux pas faire grand-chose. T'es assez sclérosé par l'actualité, par Cyril Hanouna qui, du jour à 17h, te dit, l'émission à 19, hein, 17h, on change tout, on fait ça. Et moi, j'étais juste avant que ça parte vraiment en couille sur le côté...
C'est ce que tout le monde dit, ça, non?
Ouais, ouais. Non, mais c'était déjà parti en couille dans le côté un peu Golemont. Mais moi, ça me dérange pas. Je trouve qu'il faut des émissions de Golemont, c'est bien. Les gens, ils ont envie de... Des fois, les gens ont envie de regarder de la télé et de pas se prendre la tête. C'est chacun est comme il est. Hein. Moi, je fais pas ça, mais je veux dire, il y en a, ils font ça. Bah, c'est chacun est comme il est. Mais quand moi je suis arrivé, il y avait vraiment un esprit bon enfant. Et après, ça a commencé à partir dans ce que c'est maintenant, quoi. Tu vois, maintenant, t'as professeur Raoult, un dealer et un philosophe sur le même plateau. Et tu te fais, mais de quoi vont-ils parler, tiens? Donc, c'est assez fascinant. Et ouais, donc j'étais de l'intérieur, et puis première saison, ouais, ça va, content. Et puis ensuite, j'ai commencé à bosser sur des chroniques, sur les chroniqueurs, les trucs comme ça.
Okay.
Là, c'était plus intéressant parce que t'arrives vraiment avec une chronique qui a rien à voir avec l'émission. Tu vois, c'est vraiment une chronique dans l'émission. Donc t'es une émission dans l'émission. J'ai bossé avec Combal, et puis après, fini quoi. Après, je me suis barré et j'ai fait ma vie. Hein.
Mais ça te plaisait ce que t'écrivais? Ou c'était les trucs où tu mets toutes les choses que tu garderais pas pour toi?
En fait, moi j'étais beaucoup sur l'image.
Ouais.
Prendre des images, pas drôles, les rendre drôles, prendre une émission, je sais pas, dérocher Koh-Lanta, trouver des trucs drôles, trouver des moments. Tu vois, ça m'intéressait parce que il y avait une recherche de la vanne dans quelque chose d'assez sérieux. Et ça, c'est quelque chose que je kiffe. Parce que, et tu le vois avec le rappel des tweets, par exemple, sur Insta. J'aime bien prendre une info qui peut être très très glauque et trouver une vanne dedans. C'est, pour moi, c'est ça le métier d'auteur. C'est pas simplement faire de la vanne dans quelque chose de déjà drôle.
Ouais, non, ça c'est assez insupportable.
C'est vraiment trouver quelque chose de pas drôle, trouver la vanne, quoi.
Pour moi, la plaie de ce siècle.
Vas-y.
C'est les gens qui font du stand-up en juste parlant d'une émission de télé-réalité dont le principe est déjà drôle.
Ouais, c'est...
Et juste, ils font rappeler des faits. Il n'y a pas de blague.
Bah en fait, c'est comme commentateur sportif. Ouais. C'est, tu commences ce qui est en train de se passer devant nos yeux. Tu vois, quand je jouais, parce que je ne joue plus, depuis le Covid, et puis après, je suis trop heureux pour jouer là. J'étais heureux, donc je suis monté sur scène. Et en fait, maintenant, je suis trop heureux parce que j'ai eu un deuxième enfant et ma vie, tout se passe bien.
Et le premier était pas ouf.
Le premier, c'était un buvard.
Ah ouais.
On va dire que c'était
un
peu...
C'est ta fille que tu préfères, toi.
Ouais, de ouf. Ouais, l'autre, je m'en bats les couilles. Okay. Et vraiment mauvais, le père. Non, là, je suis vraiment bien, j'ai plus besoin de scène, tu vois. Mais quand je montais sur scène, j'avais à un moment donné un passage sur la réalité. Et un jour, je le réécoute, je fais, mais c'est j'ai les rires, j'ai tout, nanana, ouais, c'est cool. Je fais, mais en fait, c'est nul. Clairement, c'est nul. Parce que déjà, les vannes sur les télé-réalités, sur les influenceurs et trucs comme ça, déjà, ça a été fait. Et en plus, enfin, déjà, ils sont drôles par, enfin, ce qu'ils sont, c'est drôle. Après, je l'ai retiré parce que je fais, mais non, c'est pas ça que je veux faire. Mais quand je montais sur scène, j'avais ce truc aussi de, tu sais, au début, tu te dis, moi, j'ai arrêté au bout de 2 ans et demi, tu vois. Bah, avec le Covid, ça faisait 2 ans et demi, je faisais du stand-up. Et j'avais déjà ce truc de me dire, est-ce que ça va plaire ou pas? Et je crois que c'était ça le plus difficile. C'est que le Covid m'a réveillé. Ça m'a fait, ah ouais, pff. En gros, tu montais sur scène juste pour faire rire des gens, peu importe si toi, ça te faisait rire ou pas. Et c'est ça, c'est pour ça que j'ai vraiment du mal. Je suis remonté un petit peu après le Covid et tout, mais j'ai vraiment du mal parce que si quelque chose me fait pas rire, c'est mort, je vais pas le jouer. Même si ça peut faire rire le monde entier, ça me fait pas rire.
Et t'écrivais pas des trucs qui, toi, te faisaient rire?
Mais ça passait pas. Tu vois?
Évidemment.
Les trucs, en fait, nous on est dedans depuis trop longtemps. Tu vois, j'ai 34 ans, j'ai commencé à écrire des vannes, j'avais 15-16 ans. Ça veut dire, C'est comme le, tu vois le magicien qui, sans m'auto-sucer, hein, tu vois le magicien qui connaît ses tours, il voit un autre magicien qui fait un tour, tu vois, mais c'est pété ça. Bah, en fait, moi je suis arrivé à ce truc de, des vannes qui font rire, des vannes commerciales, qui vont faire rire vraiment des zéniths, et ben moi ça me fait plus rire. Parce que je la connais, je sais comment, la structure, je vois comment il l'amène. La vanne, je l'ai vue venir il y a 3 secondes. Donc, ça m'a un peu niqué, ça me nique vraiment sur l'humour et sur le fait de monter sur scène. Voilà. C'est bien comme analyse. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Je sais, ça fait combien de temps, toi, t'es dedans?
Ça fait 3 ans, dont le Covid. Donc,
ouais, donc, t'as vu, c'est putain, ouais. Ça a niqué ce truc de Covid.
Ouais, ouais.
Et avant, t'écrivais?
Non, j'avais jamais fait ça de ma vie.
Ah, d'accord. Ok, donc t'as commencé à écrire quand t'es monté sur scène?
Ouais.
Putain, c'est ouf.
Ouais, ouais. Mais.
Faut être accroché pour ça. Franchement, je respecte, moi, ça.
Bah. J'avais beaucoup de temps libre.
Ouais, moi, je respecte.
Et pas beaucoup d'ego.
Non, et après, des fois, c'est faut avoir beaucoup d'ego. Ça dépend des gens. Moi, quand je suis monté sur scène, j'avais beaucoup d'ego. Parce que je me suis dit, je vais tout niquer. Tu vois, donc je suis arrivé, premier mois, vraiment très bien. Puis après, au fur et à mesure, c'était la descente aux enfers. Et là, tu perds ton ego. Là, ça te remet, tu fais OK. Waouh, je me suis vraiment chauffé. Et en fait, ça va pas être ça. Et puis, il y a ce truc de je veux pas lâcher l'affaire. Mais non, c'est comme tout, faut apprendre. Et moi, mon fils m'a grave aidé là-dessus. Parce que je le voyais apprendre à faire des choses en même temps que moi j'apprenais à monter sur scène. Donc je le voyais apprendre à manger, tomber, se lever, et je me suis dit, bah ouais, mais c'est l'histoire de la vie en fait, faut apprendre les choses. Et donc j'ai continué, et ouais, au bout de 1 an et demi, 2 ans, là ça commence à bien marcher.
Mmh.
Et puis après, Covid quoi.
Mais t'as écrit ton spectacle en 3 semaines, c'est ça?
Ouais, je suis parti à Montréal et j'ai tout niqué pendant 3 semaines. J'ai fait que gratter, j'ai tout restructuré, tout bien taffé et ouais, je l'ai écrit assez rapidement.
Et donc tu l'as joué finalement pas tellement?
Je l'ai joué, je crois, 1 fois ou 2.
Ah ouais?
Ouais, mais juste avant le Covid. Et ça marche. Mais franchement, je l'ai filmé, je le regardais il y a pas longtemps. Je me suis dit, mais putain, c'était bien! Vraiment, j'étais bon et tout. Mais j'ai plus l'envie. Je suis passé à autre chose, là.
Et t'es pas frustré d'avoir écrit tout? Bah non, tu t'en fous parce que t'écris de ouf.
J'arrête pas.
Ouais.
J'écris vite. J'ai une chance, moi, c'est que j'écris vite. Du coup, je peux passer une après-midi à écrire des trucs et après me dire, bah, poubelle. Donc ça me dérange pas. Et limite, des fois, ça m'aide d'écrire beaucoup parce que ça m'ouvre. Ça m'ouvre sur d'autres voies, parce que je digresse beaucoup, donc je retrouve toujours une vanne derrière une vanne. Il y a toujours une vanne qui se cache derrière une vanne. Toujours. Il y a toujours une grande femme derrière un grand homme. Et ben c'est pareil. Derrière chaque vanne, il y a une plus grande vanne. C'est vraiment des poupées russes. Les vannes, c'est des poupées russes. Il y a toujours une vanne plus pointilleuse, plus... Et moi, j'avais ce problème aussi sur la scène, c'est que j'aime beaucoup les vannes assez... les vannes de niche. Parce que, je sais pas, moi, quelqu'un, il va me faire une vanne avec Séverine Ferrer, je vais être mort de rire. Séverine Ferrer, c'est une présentatrice télé des années 90 qui présentait Fan 2. Okay. Tu vois, c'est. À partir du moment où il y a des rêves vachement pointilleuses, ça m'excite de ouf. Et le problème, c'est que quand t'es sur scène et que tu veux aller dans cette voie-là, bah, ça va être compliqué.
Mais il y a 2 personnes qui vont rigoler très, très fort.
Ouais, il y en a 3, 4. Mais ouais. Voilà, tu vois. Et moi, c'est ce qui s'est passé à un moment donné. Et quand j'ai joué mon spectacle, c'est là où j'ai compris que les plateaux, c'était mort pour moi.
C'est compliqué. Hein.
Ouais, déjà, c'est de l'humour Kleenex.
Ouais.
C'est-à-dire que les gens, ils te voient, ils t'oublient. Il faut plaire à tout le monde, donc plaire à personne. Quand on ne te connaît pas, on ne te fait pas confiance. Tu sais, moi, je pars du principe, il y a eu un... C'est un documentaire que je suis en train d'écrire et de produire. Je vais faire un documentaire sur le 11 septembre de l'humour, à savoir le sketch de Dieudonné. C'est le sketch où il va en télé, où il fait son sketch antisémite. Et ben, depuis ce jour-là, je pense que les gens, ils ont arrêté de rigoler, spontanément. Depuis, on a peur de rigoler pour n'importe qui. On a peur que de se dire, tu sais pas qui monte sur scène. Tu sais, il y a un mec qui va venir, qui va faire des vannes. Tu te dis, est-ce que j'ai le droit de rigoler à telle vanne? Il est premier degré, deuxième degré.
Mais tu vas te faire
détruire. Ouais, bah oui. Mais c'est pas grave. Artistiquement, c'est magnifique d'en parler.
Artistiquement, c'est pas un souci, mais les fans de Dieudonné, ils sont fous.
Ah ouais, mais non, mais c'est des hystériques. Tu sais que moi, tous les 6 mois, j'insulte Dieudonné sur Instagram pour perdre une 20aine d'abonnés. Je te jure, je fais ça, je dis au fait, Dieudonné, c'est un antisémite, c'est une merde. Voilà, tous ceux qui me suivent, les nouveaux qui me suivent et qui sont pas au courant et qui pensent que je suis pro Dieudonné ou je sais pas quoi parce que je fais des vannes un peu sur tout le monde. Pas du tout. Vous vous trompez carrément. Et je perds une 20aine d'abonnés. Je te jure, c'est mon rituel, quoi.
Ok.
Ah ouais, parce qu'il y a des gens, et c'est le fait d'être rebeu, en plus, automatiquement, il y en a, ils se disent, ouais, il doit être anti-feu, gentil, je sais pas quoi, parce qu'il y a un truc qui est, je sais pas, il y a une légende urbaine qui nous a raconté ça, et du coup...
Donc c'est, il a cofondé la pataterie et il aime pas les juifs. Ouais.
Ah ouais, c'est le gars qui vend des patates nazies. Patates nazies, c'est drôle, ça. Putain. Oui. Mais donc, on était où?
Je sais plus, j'arrive pas à suivre. 11 septembre de l'humour, les gens ouais, rigolent voilà. Pas les plateaux.
Bah, c'est ça. C'est, moi, j'ai eu ce problème avec les plateaux, c'est que, pff, des fois, tu sens le public, il sait pas s'il a le droit de rire ou pas, quoi. Mm. Et j'avais plus de rire. Des fois, je te jure, au Paname, j'avais plus de rire dans les loges où mes vannes, vraiment, vu que les humoristes me connaissaient, c'était mort de rire. Et sur scène, ça marchait pas de ouf sur des tests et tout ça. Et après, quand je rentrais en loge, ouais, putain, cette vanne, elle est incroyable, nanana. Et je me disais, mais ouais, en fait, faut plus que je fasse de plateau, c'est pas adapté à mon style. Mais voilà, quoi. C'est pour ça que, ouais, c'est, moi, le plateau, j'arrive pas à...
Mais au niveau des refs et tout, moi, je trouve ça aussi hilarant. Et dans mon spectacle, j'en laisse quelques-unes parce que moi, ça me fait trop kiffer.
Bah ouais.
Et les deux personnes qui rigolent, elles rigolent de ouf. Mais dans ton bouquin, il y en a 1 milliard. Déjà, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit que des fois ils avaient un peu eu du mal à suivre ou pas, même si en soi c'est pas grave parce que tu rates une vanne, il y en a 15 derrière que tu vas comprendre. Mais puis surtout, est-ce que t'avais pas peur que ton bouquin, très vite, genre en 3 ans, il y a des refs qu'on n'ait plus? Parce que c'est très très...
Ouais, c'est vraiment d'actu.
Ouais.
C'est vraiment d'actu. Non, j'avais pas peur parce que je sais que j'ai la capacité de réécrire un bouquin assez rapidement. Donc, je me dis à chaque fois, je vais m'adapter à l'époque. Parce que je me dis que dans 10-20 ans, ça sera un bouquin d'une période et qu'il faudra l'accepter. Enfin, c'était comme ça, tu vois. Et sans doute, dans 10-20 ans, quand je relirai ce bouquin, déjà maintenant, quand je le relis, je dis putain, cette vanne, non, j'aurais pas dû faire comme ça et tout. Dans 10 ans, je le relirai, je dirais, mais ça, c'est plus du tout recevable, ce que j'ai dit là.
Mais c'est même pas une question de recevable ou pas, parce que ça, il y a vraiment beaucoup de choses qui ne se font pas dans ton bouquin, mais c'est ça qui est marrant. Mais le fait qu'il y a des références tellement actuelles que dans 3 ans, on saura plus qui c'est cette meuf dont là, on a entendu parler.
Mais l'avantage, c'est que t'as le temps avec un bouquin. Par exemple, sur scène, t'as pas le temps de vérifier sur Google. Là, t'as vraiment le temps. C'est un bouquin, je trouve. J'ai beaucoup de personnes qui me disent, personnes genre 50, 60 ans, hein, qui me disent magnifique, c'était vraiment, j'ai appris des mots, merci Google et tout ça. La Kishta, je te jure, une correctrice de Lafon, je sais pas quel âge, mais une daronne, quoi, m'a envoyé un message, vraiment un message privé pour me dire, franchement, j'ai vraiment passé un bon moment. J'ai appris plein de mots grâce à Google, merci, voilà, la Kishta, je ne savais pas qu'est-ce que c'était, je dis ouais. Tu sais, ça fait plaisir, tu dis ah ouais, elle a fait la recherche, et en fait moi ça me va bien sans le faire exprès. Ça me va bien de me dire ah bah, ça peut être un bouquin qui se lit en même temps avec ton téléphone, quoi. Tu le lis et en même temps tu t'arrêtes, tu fais oh, tiens, je vais vérifier ça, et t'as le temps de vérifier. Le problème, c'est que quand tu regardes un film, une série, ou même tu vas voir un spectacle, t'as pas le temps, quoi. T'as pas le temps. L'attention, elle est là, et c'est pour mettre pause à chaque fois pour regarder un truc, c'est relou. Alors qu'avec un bouquin, tu le fais plus facilement.
Et du coup, avec le film, tu vas faire comment?
Oh putain, si tu savais le nombre de vannes que je dois retirer. C'est un enfer. C'est comme, tu sais, c'est quand tu retires une vanne auquel tu crois vraiment et auquel t'étais fier de la mettre. Parce que c'est une fierté à chaque fois de mettre une vanne que tu trouves efficace, et que derrière en plus on dit ouais, telle vanne, nana. c'est vraiment, c'est, tu te, c'est à chaque fois des petits coups de couteau comme ça. C'est, ça, ça fait chier, mais pour le bien du film, tu sais que le film n'en sortira que vainqueur.
Bon les gars, j'ai foiré. J'avais enregistré un truc en backup sur la carte mémoire de mon enregistreur et donc forcément, je me suis retrouvée avec une carte full en plein milieu de l'interview et je l'ai pas remarqué tout de suite. Donc en gros, j'ai perdu 30 minutes de conversation avec Mourad et honnêtement, c'était les 30 meilleurs. Donc vraiment, je me suis tapé la tête contre les murs. Il y avait des choses vraiment hyper intéressantes. On a parlé d'écriture, de son roman et notamment, il a raconté un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que quand il veut avancer, il se trouve des ennemis un peu imaginaires comme ça. Si on lui dit non, mais tu vas pas écrire un roman, il va faire genre ah ouais, et bah il va avancer lui en ayant une sorte d'ennemi comme ça dans sa tête. Donc voilà, je suis désolée, je m'en veux vraiment beaucoup. Heureusement par contre, on a parlé vraiment longtemps, donc voici la suite des 30 minutes perdues.
C'est compliqué, j'ai l'impression d'avoir des points de vue vraiment, enfin, tu parlais de quoi toi dans ton spectacle? Est-ce que tu vraiment racontais ta life en faisant des blagues auxquelles les gens pouvaient évidemment se raccrocher, machin, ou est-ce que vraiment tu avais des points de vue sur des choses?
Ouais, moi j'avais des points. Alors, mon spectacle, je l'avais appelé Fin du monde. Ouais, je crois que c'était ça. Et en gros, la ligne directrice, c'était mon mariage. Mmh. Donc, plein d'événements pendant le mariage, mais enfin, pendant le mariage, avant, après, c'était le fait que bah, c'est la fin d'un monde, le mariage, parce que bah, tout ce que tu as vécu avant, bah, c'est fini, c'est terminé. Mmh. Et j'utilisais ça pour parler aussi de la fin du monde actuel, parce que j'estime que là on est dans la fin d'un monde dominé par le mâle blanc hétéro cisgenre CNews de 50 ans, et qu'il y a un nouveau monde qui arrive où bah il y a plus tout ça quoi, il y a plus ces règles, tout est déconstruit et tout est nouveau, et ces gens-là de l'ancien monde ont peur de ce nouveau monde, et ils te disent que non mais c'est pas comme ça la vie, c'est comme ça parce que nous on a toujours fait comme ça et jusqu'à présent on est encore en vie. Mmh. Ouais mais non, en fait non, bah maintenant tu fais ce que tu veux, ta sexualité, ta religion, tu fais ce que tu veux, voilà, c'est tout, point barre, et tu rentres pas dans ma vie parce que je rentre pas dans la tienne. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné je parle aussi de mes grands-parents et de leur façon de penser, la mienne, comment on est complètement différents, et c'est vraiment un choc. Pour moi, il n'y a pas un choc des civilisations, il y a un choc des générations. C'est ça le vrai problème de problème entre guillemets, mais hein, de notre époque et qui vont animer l'élection 2022. C'est vraiment ça. Les personnes âgées ont vécu dans un style et beaucoup ça les dérange le nouveau style. Bah ouais, mais c'est comme ça quoi. Point barre. Et donc moi, c'était ça. Tout mon spectacle, ça parlait de ça. Et tu vois, il y avait un point de vue, il y avait du travail, hein, fallait vraiment que c'était le début, hein, vraiment il y avait je savais que il me fallait encore un an de jouer deux trois enfin sans doute deux fois une fois voire deux fois par semaine, mais ouais, il y avait un je partais sur une idée, et quand j'ai commencé à l'écrire, je partais sur une idée, je partais pas sur ah tiens l'avion. Très bonne idée. Il y a un sketch à faire sur les avions. Pourtant, j'aurais pu, tu vois, mais je partais pas sur ça. Moi, je n'ai jamais vu le stand-up comme ça.
Il y a des gens qui font ce...
Bah, je pense. Moi, je connais trop d'humoristes qui ont des passages et qui, après, ils te disent... Enfin, ils ont là, j'ai un 10 minutes. Il n'y a aucun rapport entre les deux. Mmh. Et ils disent, ouais, mais on s'en fout, je vais faire une transition... Mais comme ce 10 minutes marche, ouais. Et ce 10 minutes marche, ouais. Et après tu fais ah ouais, ok, je comprends pourquoi ça fait 7 ans que t'es sur ton spectacle et que ça fait 7 ans, t'as 20 minutes, tu vis avec, tu fais tous les plateaux de Paris, mais t'as pas de spectacle.
Ouais.
Parce qu'en fait, tu sais pas où tu vas. Il y en a beaucoup, ils savent pas où ils vont. Hein. Des fois, quand je passe au Paname et que je regarde j'ai des discussions avec des humoristes, je me rends compte, il y en a plein, ils savent pas où ils vont, quoi. Et ça fait un moment qu'ils sont là, ils sont dans le milieu et le spectacle est pas abouti, mais ils vivent de ça, donc. Tu sais, quand t'as travaillé... C'est enregistré, là? Putain, je vais me faire allumer. Non, mais quand t'as travaillé... tu travailles 7 minutes par jour et que tu prends 50 balles, et en parallèle, t'as peut-être, je sais pas, le RSA ou je sais pas quoi, et que tu fais rien de ta vie, tu vis la nuit, les potes, les trucs, les sorties, ça peut vite devenir... Le temps passe déjà très très vite, et puis ça peut devenir addictif.
Toi, t'as eu des phases comme ça? Tu pouvais pas, t'avais ton gosse.
Non, moi, vu que j'avais des obligations, je pouvais pas, jamais pu. Mais et puis même, ça y est, moi, j'ai fait le tour. J'ai tellement sorti quand j'étais plus jeune et tout, c'est tombé.
Donc j'ai fait le tour du truc et j'ai vite compris que c'était pas mon délire. Mais ouais, ça c'est, tu vois, ça les plateaux, il y a aussi cet engrenage de se dire ouais, je vais faire des plateaux, je vais travailler mes textes, nanana, et puis t'avances pas réellement parce que t'es dans un microcosme où tout le monde est pote, ouais, ça rigole et tout, et puis à la fin, un an plus tard, tu vois, mon spectacle est pas du tout prêt là, j'ai que 10 minutes.
Ouais, puis il y a un peu ce truc de ouais, non, mais je vais bosser mes textes et tout, puis tu changes une phrase, t'es là, ouais, mais j'ai bossé, ça a ouais. changé.
Il y a ça, il y a le fait qu'il y a la concurrence, t'es dans les loges, il y a d'autres humoristes.
Ouais, ça, c'est un truc.
Tu dis, je vais tester.
Parisien, ouais, insupportable.
Moi, je me suis retrouvé sur des plateaux où vraiment, il y avait des gens, je les méprisais par leur attitude, par leur façon d'être, de dénigrer les nouveaux, les moins bons, les. Et du coup, je me disais, mais en fait...
Alors que toi, tu les dénigres tous.
Tous. Moi, tous. Vraiment. Que tu sois bon ou mauvais, pour moi, t'es une merde. Non, mais il y avait ce truc vraiment de compète qui me... Pour moi, l'humour, vraiment, c'est on rigole, on est des potes. C'est pas sérieux. Tu vois, vraiment, c'est une bulle enchantée. On est dans un monde qui est clairement... enfin. On est 0,00001% de la population mondiale à vivre de vannes. Mmh. C'est privilégié, il n'y a pas plus privilégié que nous. Et t'arrives, t'es dans un truc de compète et tout. Il y en a, ils veulent être les plus drôles du plateau. Toi, tu viens pour faire des tests. Mais tout le monde fait du sûr. Tu vois, ouais, mais non, mais moi, je voulais faire un peu de test. Pour moi, le plateau, c'est pour tester. Mmh. Et puis après, tu fais, bon, bah, vu que toute la salle rigole, t'as ton ego qui fait, ouais, mais moi, j'ai envie que toute la salle rigole. Mmh. S'il rigole pas, bah, c'est que je suis le plus nul. J'ai pas envie d'être le plus nul du plateau. Je veux pas que les gens, ils sortent et disent, ah ouais, tu l'as vu, lui, là? Ah, c'était nul. Mmh. Bah ouais, mais il testait quelque chose et tout. Et donc, moi, ce truc-là, des plateaux, ça m'a beaucoup dérangé. J'ai fait abstraction pendant longtemps. Et puis, vers la fin, il y a des plateaux que je préférais refuser, quoi. Parce qu'il y a des gens que j'aimais pas sur le plateau. Je te jure, vraiment, je te jure. Et qui maintenant, des gens, moi, il y a des humoristes qui ont parlé sur moi et tout ça. Ouais, c'est pas ouf ce qu'il fait. Et maintenant, mais laisse tomber. C'est même pas, ils viennent me voir. C'est, ils vont voir d'autres personnes pour dire, oh, Mourad, c'est un génie. Et tu fais, putain, mais non, pas toi, pas toi, pas toi, s'il te plaît. Tu veux que je donne les noms? Je les donnerai en privé.
Non.
Non, c'est un délire. C'est le monde de l'humour parisien, parce que c'est parisien. Parce qu'ailleurs, il n'y a aucun problème. Tout le monde m'a. Enfin, quand je suis parti à Montréal, j'ai vraiment kiffé. Tout le monde était
Montréal,
super
c'est
cool.
Des bébés chats.
Mais j'ai des potes qui jouent à Nantes, Lyon. Il n'y a pas tout ça. Mais à Paris, il y a un truc. Il y a un truc de compète et qui est malsain avec ça.
C'est sérieux, hein, c'est.
Pourtant, j'aime bien la compète, tu vois. Mais dans l'humour. Où vraiment on est une bulle, où pour moi c'était limite une bande de potes et on fait un métier qui est hyper cool. Là, pour moi, on n'a pas à se comparer les uns des autres. Ça c'est, et puis on fait un métier de fils de pute, hein. Tu montes sur scène, tu dois faire rire des gens. Les gens, en plus, tu regardes toujours la personne qui rigole, hop. Tu sais, il y a un truc, c'est violent, c'est super violent. C'est faut être baisé pour monter sur scène. Faut vraiment être fucked up, hein. On s'en rend pas compte, mais.
Ouais. Mais du coup, pour toi, écrire le bouquin, c'était plus. C'était comparable, le type de choses que t'as ressenti, ou c'était tellement plus posé d'être chez toi, de pouvoir retravailler les choses mille fois?
Bah, je préférais vraiment écrire le bouquin que monter sur scène. Mmh. Moi, je me suis rendu compte que je voulais pas faire ça de ma vie, monter sur scène indéfiniment, enfin. Quand Malik m'a fait faire des zéniths, des premières parties, et ça s'était plus ou moins bien passé, les premières pas trop, après oui, mais même quand j'avais les rires et tout, en fait, il y avait un côté industriel, tu vois, il y a un truc qui, déjà je me suis dit, ouais, en fait c'est trop bien les salles de 50 places, franchement c'est le feu, alors que les salles de 3000 personnes, 4000 personnes, c'est... Tu les vois pas, tu prends des vagues de rire dans la gueule, tu vois le premier rire, tu fais ouf, waouh, le son il est fort. Donc c'est vraiment un autre métier, complètement un autre métier, et j'ai pas ressenti ce truc que tous les humoristes ont, à savoir l'amour du public. Moi j'ai besoin, c'est une nécessité pour moi de monter sur scène. Ça je l'ai pas du tout ressenti. Pour moi c'était pas une nécessité, c'est là que j'ai compris que je ferais pas ça. je ferai pas que ça, tu vois. Mm. Ça m'intéresse de remonter sur scène, je pense que je remonterai pour le délire, pour tester des nouveaux sketchs comme ça, pour voir. Mais vraiment faire ça de ma vie, je peux pas.
Mais déjà répéter la même chose pendant un an, ça va casser les couilles, non?
Ouais, je peux pas. Ça me rend ouf. C'est pour ça que je te dis que le texte, je le modifiais tout le temps. Mm. Et que même si je joue à 20h et que à partir du moment où je me réveille le matin, eh ben je vais penser à 1000 trucs parce que rejouer, ça va me saouler de rejouer le même passage. Mm. C'est une mécanique et tout. Mais t'es obligé, quoi. Parce que bah t'as pas tout le monde dans ta salle au même moment, donc il faut absolument réitérer la performance, quoi. Mmh.
Et du coup, quand tu joues avec Malik, qui a quand même un public très large,
ouais,
tu devais faire des vannes assez qui te faisaient pas rire de ouf, en fait.
Bah le public, alors c'est ce qui est intéressant, c'est que le public de Malik, il y a un peu de tout. Malik, il te ramène des plus jeunes, des darons, il y a un peu de tout, et comme c'était des salles de 3-4 000, t'avais tes rires. Mmh. Tu savais que...
Même s'il y a 20% qui rigolent, ça fait beaucoup de
bruit. Ah ouais, ça fait quand même beaucoup de bruit. Et bon, c'était difficile parce que tes premières parties, et les premières parties, c'est toujours laisse tomber.
C'est ingrat,
ouais. Non, mais t'arrives sur scène, il y a quelqu'un qui crie « Il est où, Malik ?» Tu vois, c'est déjà « Bonjour », déjà. C'était un vrai délire. Mais quand tu fais un passage sur... Par exemple, j'avais un passage sur le fait d'être marié, quoi, où c'était un 10 minutes là-dessus... Tu sais que tu vas parler un peu à tout le monde. Toi, ça te parle parce que c'est quelque chose que t'as vécu et où t'as un angle un peu différent. Et donc, non, t'es content. Tu fais ton truc, t'es content. Mais tu sais que tu ne pourras jamais... Moi, je savais très bien que je pourrais jamais monter sur faire des zéniths avec des vannes que j'aime vraiment. Mm. Tu vois, parce que ça plaît à 10% de la population. J'en suis conscient. Tu vois, moi, plein de gens me disent « Comment ça se fait ?»« Mais quoi, t'as 8000 abonnés sur Insta ?» Mais j'aurai jamais 400 000, c'est sûr. Parce que mon univers, mon humour, mais il y a peu de personnes. Moi, je suis très, très drôle pour très, très peu de gens. Et j'en suis conscient. Et ça me dérange pas du tout, tu vois. Je le vis assez... Moi, je suis content de ça.
C'est même pas assez drôle pour un swipe-up.
Déjà, t'imagines le chien de Nawel Madani, il a 11 000 et moi, j'ai 8 000. Mais non.
Ah putain, j'avais oublié ça.
Mais non.
C'est comment Tupac?
Tupac, Madani, putain de... J'ai envie de le tuer. Je crois que je vais l'exécuter. C'est lui que je vais exécuter en premier, d'abord. Son chien, après le chien de Kian. Tous les chiens de Star qui ont un compte. Ils me rendent ouf.
Dans ton bouquin, c'est genre... Ourad, c'est genre toi à 20 ans.
Ouais.
Et du coup...
En fait, c'est ce que je... C'est pas moi à 20 ans. Enfin, c'est ce que j'aurais pu, comment je pensais à 20 ans. Mmh. Il y a beaucoup de comment je pensais à 20 ans.
Et du coup, si dans 10 ans, tu réécris sur le Ourad, là, qui en a 34,
ouais,
tu souligneras quoi comme truc de fils de chien?
Une bonne question, putain. Pour l'instant, je sais pas encore. Moi, il me faut beaucoup de temps pour déceler qui je suis.
Mmh.
Là, je suis dans une période où je vois qui j'étais il y a 5-6 ans. Mais maintenant, là, j'ai pas encore le truc. Après, le deuxième bouquin va parler de... Je peux pas, parce qu'il y a des gens, ça se trouve, ils vont lire le premier. Mais bon, je sais déjà, le deuxième et le troisième, ils vont parler de quoi, tu vois. Mmh. Donc, je sais où je vais aller et je sais que le personnage... Comment pensera le personnage? Parce qu'il va se passer des choses dans sa vie qui vont faire qu'il va penser autre chose. Mais maintenant, si je dois écrire maintenant, non, maintenant je suis vachement plus posé. J'ai plus ce truc du mec de 20 piges qui veut que baiser, tu vois. Mmh. Parce que c'est ça la base du film, du bouquin. C'est un mec qui veut baiser, quoi. Simple.
Et, efficace.
Tu sais, c'est pour ça que je suis allé droit au but. Enfin, l'être humain, j'ai bien calculé tout ce qu'il faisait. Et le mec en particulier, il veut baiser. Tout ce qu'il fait, c'est pour baiser. Il veut être riche pour baiser, en fait. Il veut tout. Il veut baiser. Et à un moment donné, il tombe amoureux et il se marie. Il a des gosses et il baisse plus. Le mec, il parle de lui, là. Non, mais et le mec, et c'est ce qui se passe. Et c'est après, derrière, il y a l'adultère. Il y a tous ces trucs-là, tu vois, que j'ai aussi envie d'aborder. Que je vis pas. Mais il va falloir que je l'aborde. Mmh. Parce que c'est quelque chose qui est vraiment dans l'intimité. Là, j'ai vu récemment un film de 1969 qui s'appelle L'Arrangement, qui est incroyable, qui traite de l'adultère. Vraiment, c'est incroyable. C'est de Elia Kazan. Et c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment parce que moi je connais pas l'adultère, mais j'ai envie de connaître. Tu vois, dans le sens où c'est quelque chose qui j'ai envie de. Donc là, faut que je lise.
Je t'ai trompé, mec, par curiosité.
Non, chérie, je te trompe. C'est juste pour le troisième bouquin, en fait. C'est quelque chose que j'ai envie de traiter parce que j'ai envie de rentrer dans la tête d'un mec qui trompe sa meuf et qui. Enfin, tous les stratagèmes, tout ça, ça m'intéresse.
Mais oui, déjà, c'est un potentiel comique infini.
Ben oui.
C'est pour ça que tous les films français parlent de ça.
Parce que c'est. En fait, c'est la lâcheté qui est drôle. La lâcheté d'un être humain qui va te faire miroiter quelque chose et en fait il pense mais c'est diamétralement opposé ce qu'il pense réellement et ce qu'il vit réellement. C'est ça moi qui m'intéresse, c'est la tricherie. C'est trop drôle la tricherie. Les gens qui trichent, c'est pas plus drôle qu'un tricheur. Là j'ai vu une série récemment, ça s'appelait Mytho. C'est une série française, c'est une nana qui est débordée par sa vie, des gosses, le taf, le mari, c'est un connard. Et à un moment donné, elle va faire croire qu'elle a un cancer. Et du coup, tout le monde devient gentil avec elle et elle devient dépendante de ça. Donc, elle a pas envie de dire la vérité. Et bon, après, c'est un engrenage. Puis bon, malheureusement, comme tous les films français, il y a un potentiel comique incroyable. Et puis, ils vont dans un truc où c'est long, c'était chiant. Vraiment, je me suis fait chier. Mais tu dis, putain, l'idée, elle était folle. Il y a une comédie incroyable à faire dessus et rester dessus. Et c'est ça, la lâcheté, c'est trop drôle, la lâcheté. Donc voilà. Je suis pas très lâche, moi, mais je devrais. Je kifferais être lâche.
Tu t'es déjà perdu dans un mytho ?
Perdu dans un mytho ?
Ouais.
Non. Non, ça va.
Toujours été très efficace.
Ouais. Ouais. Non, mais moi, je suis fort pour mentir. Très, très fort. Ah ouais, je... Parce que j'y crois. Moi, je crois de fou à mes mensonges. Je suis ouais, grave, ouais. Et j'imagine le mytho et tout. Donc, je suis tellement dedans. Après, faut pas l'oublier. Sur les années, c'est ça le plus difficile. Si t'as sorti un mytho et 4 ans plus tard, tu te rappelles de ça? Tu fais, pas du tout. J'ai jamais vécu ça.
Mais un jour, tu vas être contacté par des magazines food pour la pataterie.
Ouais.
Et est-ce que tu vas répondre?
Je pense que dans le stress, je vais bloquer. Je vais mettre, oh, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Non, mais je dirais la vérité. J'ai fait croire et c'est tombé dedans. Non, mais ce serait
hilarant que tu répondes à tout.
Moi, je kifferais. Tu sais quoi, j'ai envie de faire un deuxième compte la pataterie et dire que le premier compte la pataterie, il a été piraté. Venez suivre celui-là. Et maintenant, je suis le CM de la pataterie. Magnifique.
Je pense qu'on n'est pas loin d'avoir fait le tour.
T'as une question, genre à la fin? Ça, c'est la question qu'on pose à tous les invités.
Non. Mais en général, j'essaie de terminer avec un truc, genre un peu, tu vois, un peu mystérieux, un peu truc, machin. Puis là, en général, je la crame toujours avant la fin. Parce que je suis une merde et que j'ai pas de patience. Moi, un truc pour lequel je rigole vraiment à toutes tes blagues, même les plus horribles, c'est que je sais que l'intention est OK. Quand t'as bossé pour des émissions, genre, touche pas à mon poste, alors que tu sais que l'intention est pas toujours OK, comment tu...
Moi, j'ai beaucoup cru que l'intention était OK.
Ah ouais?
Ouais. Et je pense vraiment que les humains sont cool et tout. Tu vois, moi, je suis persuadé que ça, au début. Pour moi, tout le monde est gentil. Et puis après, au fur et à mesure, tu vois, mais c'est un enculé, lui. Je pensais pas du tout. Et vraiment, avec TPMP, au début, moi, pour moi, c'était une émission de divertissement et point barre, quoi. Et puis après, au fur et à mesure, et maintenant, c'est vraiment devenu un PMU où chacun vient et raconte sa version des faits. Je suis parti un peu avant, un peu avant de ça. Et puis moi, j'étais, comme je te dis, j'étais dans une bulle, dans les chroniques, dans l'émission. Mais c'est vrai que maintenant, quand je regarde, je dis putain, j'ai bien fait de me barrer, quoi. Vraiment, j'ai bien fait de me barrer parce qu'en fait, c'est une émission politique depuis le début, sous couvert de Darka. En fait, c'est une émission politique. Quand tu vois maintenant ce que c'est devenu, enfin clairement le groupe Canal, tout ce qui se passe, quoi, c'est incroyable. Du coup, tu dis ah ouais, mais en fait c'est un peu le cheval de Troie, quoi. C'est non, nous on est cool et en fait bah sous couvert de cool, derrière il y a des dingueries. Enfin il y a des débats. Tu te dis mais c'est surtout que moi je pense que les débats n'ont pas leur place à la télé. Parce que la télé, c'est binaire. C'est oui ou non. Enfin, moi, ils m'ont contacté pour des trucs, des PMP, franchement, pour être chroniqueur sur des sujets. Je dis, mais moi, je suis pas chroniqueur, moi. Aller prendre des politiciens qui ont vraiment des choses à dire. Moi, je m'estime pas super intelligent, hein. Je suis un humain normal. Mais vu que le niveau des êtres humains est en train de baisser, eh ben, il y en a, ils me font passer pour un mec super intelligent. Mais pas du tout. C'est juste que le niveau est devenu catastrophique. Et on m'a beaucoup contacté pour être chroniqueur et donner mon avis sur des trucs, la banlieue, les conneries comme ça, genre, parce que t'es rebeu et que t'as écrit un livre, on va te proposer ça, mais c'est des fous. Et moi, j'en veux justement à ces émissions maintenant, parce que, ouais, bah non, au début, c'était tu te foutais du chocolat sur la gueule, et maintenant, t'invites des complotistes, des antivax, des racistes, des trucs. Enfin, quand t'invites, à partir du moment où t'invites des gens de génération identitaire, tu leur donnes la parole. Tu vois, après on peut me dire oui, mais derrière l'association elle a été dissoute, tout ça. Ok, d'accord, mais ils vont en refaire une autre. Tu vois, t'as donné la parole à des gens à une heure de grande écoute. Je sais pas, je crois que c'est dans les années 70, les négationnistes, ils ont été bannis du service public et de la télé, et des radios, parce qu'en fait c'était dangereux d'inviter ces gens-là. Et moi je suis hyper d'accord avec ça. Et, t'es malade, on va pas mettre un mec à la télé qui va dire que la Shoah n'a pas existé. T'es obligé de c'est pas une question de corrompre la liberté d'expression, c'est juste que tu fais pas ça. C'est des malades, on les met pas à la télé, quoi. Et des fois, quand je regarde, quand je vois les gens qu'ils invitent, je dis, putain, mais on vit pas sur la même planète. Mmh. Tout ça pour de l'audience. C'est là le vrai problème. C'est Noël Mamère qui a écrit un bouquin dans les années 80, je crois, ou 90, qui s'appelle La dictature de l'audimat. Et je l'ai pas lu, mais juste le titre, il est incroyable, le titre, parce que c'est clairement ce qui est en train de se passer. Tout est lié à l'audimat, aux annonceurs. Il faut absolument faire de l'audimat pour que les annonceurs payent. Bah, du coup, pour faire de l'audimat, qu'est-ce qui intéresse les gens? Bah, c'est le sang. Il y a besoin, il faut de l'odeur du sang. S'il n'y a pas de sang, on va te mettre un raciste avec un mec d'extrême gauche, on va te mettre une voilée contre Zemmour. Enfin, tu vois où est-ce qu'on en est maintenant? C'est, on dirait limite des pitchs de films. Tu sais, des films français. Genre, oui.
C'est une voilée et Zemmour qui sont dans son avion. Ouais.
Et ils vont devenir super amis et vont se rendre compte que, waouh, en fait, on a le même sang, bordel. Tu vois, c'est toujours les mêmes trucs. Ouais. Et moi, je les trouve vraiment responsables du climat ambiant. Tous, vraiment tous. Parce qu'il faut pas donner la parole à une personne qui prône le combat et la haine de l'autre. Tu peux pas lui donner la parole. Moi, j'ai vraiment un gros problème avec ces gens-là. Parce que moi, le racisme, je sais pas ce que c'est, le racisme. Tu vois, j'en ai vécu pas de ouf. Enfin, frontalement, pas de ouf. Mmh. Peut-être, sans doute, même oui, pour des apparts, pour du taf, tout ça. Mais, qu'est-ce que je te dise? Bah, c'est la vie, hein. C'est comme ça, faut se battre pour ça, mais voilà, je l'ai vécu et je vais pas en faire des caisses, quoi. Mais je comprends pas, moi j'ai jamais compris qu'on puisse être pas tolérant avec un homosexuel, avec un juif, je comprends pas le concept. Tu vois, je sais pas c'est quoi. Mmh. Tu vois, pour moi, c'est pour ça que ça me fait rire. Tu vois, je sais plus, j'étais dans un bus une fois, il y avait un mec bourré, et il disait, ouais, tous des pédés! Et en fait, tout le monde était choqué. Moi, ça me faisait rire parce que pour moi, c'est pas vrai ce qui est en train de se passer là. Il est totalement ouf, ce gars-là. Et ça me fait rire. Et quand je vois qu'à la télé, on oppose les gens sur ce modèle-là, je dis, mais non, c'est pas possible. On n'en est pas là, là. On en est à un an de l'élection? À 8 mois? Mais non, c'est pas sérieux. C'est comme moi, j'en veux à ces gens-là. J'en veux vraiment. J'en veux aux gens responsables. Quand t'as pas de responsabilité, que t'es con, moi je tolère la connerie quand c'est quelqu'un qui maîtrise pas tout.
Mais d'un côté, ça peut un peu être une excuse de je sais pas, je savais pas, le machin, mais t'as pas cherché non plus. Et tout le monde ne peut pas chercher ou ne peut pas comprendre qu'il faut chercher. Mais c'est un peu à double tranchant, j'ai l'impression. Enfin, c'est un peu...
Qu'est-ce qu'il y a à double tranchant?
Bah, ça peut... En fait, je suis d'accord avec toi et en même temps, je me dis... Je sais pas, le truc de... Je sais pas, j'ai pas réfléchi. Mm-hmm. Ouais, et tout le monde n'a pas les chances qu'on lui dise qu'il faut réfléchir et qu'on lui donne des clés pour ça. Mais d'un côté, c'est parfois facile de se dire je vais pas réfléchir à ça et je vais rester dans l'ignorance.
Oui. Ah oui.
De genre, je vois que des gens ont un problème avec une situation. Moi, je vais juste continuer à accepter ça parce que voilà.
C'est pas tolérable, ça. Mais j'ai de plus en plus l'impression qu'il y a plein de gens qui se posent même pas ces questions. Tu vois, moi j'ai eu une discussion avec un mec une fois qui aime pas les Arabes. Vraiment. Mmh. Et j'ai vraiment essayé de je lui ai parlé pendant longtemps sur Instagram. Il me parlait.
Tu lui as dit tes trois qualités.
Franchement, il était con, putain. Et j'essayais de, je me battais avec moi-même, je me disais, soit pas ce gars qui va l'insulter ou je sais pas quoi, essaye de parler. Et je discutais. Et après, au bout de quelques mois, je fais, mais en fait, il y a rien à faire. Il est comme ça. C'est plus fort que lui. Et il a beau avoir, tu le sens qu'il a, il a des qualités qui, il peut être quelqu'un de raisonnable et de réfléchi. Mais en fait, c'est plus fort que lui. Il y a des gens, tu peux pas leur retirer. Enfin, moi, j'aime bien faire des comparaisons avec la religion. Tu vois, moi, j'ai un pote, je sais qu'il ne croit plus en Dieu. Je le sais. Mais lui, il se ment à lui-même. Il se ment à lui-même, il continue à pratiquer sa religion de manière comme on lui a inculqué depuis qu'il est gosse. Mais dans les faits, moi, je suis persuadé qu'il n'y croit plus. Mais c'est devenu c'est dogmatique dans sa tête. Et il se posera pas la question de est-ce que je suis athée ou pas. C'est comme ça, et je fais comme ça, et j'irai au bout de ma vie comme ça, parce qu'on m'a appris ça quand j'étais gamin. Il y a des gens, ils pensent qu'il y a une hiérarchisation des races, et depuis qu'ils sont gosses, ils doivent le penser, parce qu'ils ont grandi sans doute dans une famille qui le pensait, et tu peux pas les aider. Tu peux discuter un peu avec, par A plus B, tu lui prouves que c'est des conneries, ce que tu penses, c'est pas viable, tu vois clairement que tu fais fausse route. Mais il pourra pas changer d'avis, quoi. Et c'est pour ça que je te dis, des fois, il y a des gens, ils sont cons. Je te jure, il y a des gens, ils sont cons, faut les accepter. Et le plus dur, moi, c'est ma mère, elle me dit, le plus dur, c'est d'accepter les cons. Ma mère, elle dit, le djihad, c'est de tolérer les cons sans jamais leur mettre de gifles. Elle dit, le jour où tu, vraiment, t'arrives à tolérer les imbéciles autour de toi et que t'es en paix avec toi-même, et que tu tolères le fait que l'autre dit des conneries, c'est pas grave, t'es con mon pote. Ben là, c'est vraiment que t'as atteint la pureté et vraiment t'es une bonne personne. Moi, je pourrais pas. Moi. C'est sûr, je vais aller en enfer, maman. Je suis obligé de l'insulter, lui. C'est dur, hein. C'est dur de tolérer la connerie. Putain, c'est un vrai thème, ça. C'est une idée de film. Tu l'as vu, Diocratie?
Ouais.
Ah putain. Quand je l'ai vu, j'étais jaloux.
Il y a des œuvres que t'aurais aimé, tu dis putain, ça, j'aurais voulu l'écrire.
Le spectacle de Bill Burr, Paper Tiger, le dernier.
Ok.
Parce que, putain, qu'il est fort. Et c'est des trucs que j'ai pensé en même temps, enfin, c'est dans l'air du temps. Mais comment il te les a amenés, je sais putain, bien. Il y a Inception. Ah, Inception. Putain, le rêve. Le rêve, c'est fou. Enfin, tout est fou dans ce film. Même le rêve, juste le rêve en lui-même, je trouve que déjà, c'est un délire. Tu t'allonges, tu dors, il se passe des trucs pendant que tu dors, tu te réveilles, ça n'a aucun sens, mais c'était dans ta tête. C'est-à-dire que, en fait, tu dormais pas, il se passait quelque chose en même temps que tu dors, la vie ne s'arrête jamais. Même quand tu dors, il se passe des trucs. Donc déjà, moi, le rêve, déjà, c'est un truc qui me fascine. Et... Il y a quoi d'autre? Quoi d'autre où j'étais jaloux? Mais souvent, hein. Ça m'arrive souvent. Ah, j'ai lu Petit Pays de Gaël Faye. J'étais jaloux des émotions.
Mais tu trouves pas ce qui manque dans ta vie, justement, c'est un génocide?
Pour être, vraiment accompli.
Ouais.
Je pense que si j'avais vécu un génocide, j'aurais écrit des dingueries derrière. Des fois, t'as pas l'impression qu'il faut que tu souffres plus pour être plus performante, plus drôle ou même peu importe, hein, pour être vachement artistiquement plus épanoui?
Non, parce que d'un côté, si je souffre trop ou plus, je vais juste pas vouloir faire ça, en fait. Je vais juste me dire, mais tu sais quoi, je reste au lit. Hein. Donc, je vais pas aller loin. Et puis, c'est quand même encore plus stylé d'arriver à faire des choses bien alors que t'as pas une matière de base qui est fertile de ouf avec ça, tu vois.
Ouais.
Comme faire des blagues sur un truc qui est déjà drôle, aucun intérêt. Faire des blagues sur un truc qui l'est pas, là c'est bien.
Ouais, c'est ça qui est bandant en fait.
Ouais.
Dans notre métier, c'est ça qui est bien. C'est de trouver du drôle dans du pas drôle. Moi, c'est là où... Après... Mais ouais, non, moi, je pense qu'il faut un génocide, un bon petit génocide. Après, ça dépend de l'heure. Non, génocide le matin, flemme.
Ah ouais.
Non, attends, 14h. Non, mais vraiment, lui, il a vécu quelque chose d'incroyable. Donc forcément, bon, quand j'ai lu le bouquin... Après, le film, j'ai pas du tout accroché, mais le bouquin, il m'a...
J'ai pas vu.
Le bouquin, il m'a scotché. Il y a quoi d'autre? Ah si, j'ai vu une série qui s'appelle Euphoria. Mmh. Et le réalisateur, vraiment, j'ai fait quel bâtard.
Incroyable.
Ouais, les plans, les...
Alors que le scénario...
C'est pas que t'as...
Éclaté, hein.
Mais c'est là où tu vois la... Moi, je trouve que artistiquement, c'est quand quelqu'un arrive à faire quelque chose avec très peu d'éléments et il t'en fait une dinguerie.
Ouais.
Pour moi, c'est ça, un artiste, quelqu'un qui mérite le fait que je vais payer pour sa gueule. Sinon, prendre des trucs, voilà, une histoire incroyable avec des trucs fous. Non, là, c'est pas fou. C'est des lycéens, bon, il y a une toxico, enfin, qui est un peu en réhab, mais c'est pas gueudin. Mm. Tu vois, c'est même, il a sorti un film, c'est Sam Levinson, il a sorti un autre film qui s'appelle Marie et Malcolm, sur Netflix. C'est un... Ils sont dans un appartement, enfin dans une maison, avec c'est un couple, et pendant 1h40, ils s'embrouillent, ils se prennent la tête, ils s'aiment, ils se détestent. Et pour moi, ça, c'est du génie. Partir de rien, faire une œuvre comme ça, avec tout ce qui implique le fait que ton perso ait des fêlures et des vrais problèmes qui font qu'ils deviennent ce qu'ils deviennent au fil des années. Moi, ça me fascine. Ça, je trouve c'est talentueux, quoi. Et en bouquin, il y avait qui d'autre? Ouais. Faizaguet, La discrétion, mm-hmm. Parce que ça m'a parlé. Comment elle traite des femmes dans la famille musulmane, la maman, tout ça, ça m'a vraiment parlé. J'ai trouvé que c'était et puis je trouve qu'elle écrit vraiment bien. Quoi d'autre? Je sais pas. Hein. Inception, c'est mon best de... Je suis vraiment fan de ça. Quoi d'autre comme film? Ouais, non, c'est tout. Et après, comme je t'ai dit, je me lasse vite des choses. C'est-à-dire, souvent, je regarde des films. Là, j'ai vu un film récemment, je suis ah, putain. Pff. C'était des... Ouais, c'est bien, mais... Pff, les gens, ils en font des caisses. Hein. Tu vois, alors que le film est bien, mais...
Est-ce que c'était Drunk?
Non, alors j'ai vu Drunk. Vas-y, donne ton avis, toi.
Ah, moi, j'ai adoré.
Ouais, voilà.
De gens m'ont dit, on en a fait des caisses et tout, alors que c'était pas si ouf. Moi, j'ai trouvé ça incroyable.
Non, moi, j'ai trouvé ça. Alors, l'idée est super drôle. Ouais. Le message sous-jacent est quand même fascinant sur comment tu peux vite vriller entre la dépendance, le fait de te faire. Enfin, clairement, c'est des gens qui ne supportent plus leur vie. Et qui vont se mettre des pseudomines au début, et puis vite des mines. Et en fait, c'est ça, c'est comment accepter la vie, quoi. C'est moi, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est pour ça que je l'ai trouvé vraiment bien, le film et l'évolution, les grammes en fonction de, au fur et à mesure. Je trouvais ça génial. Mmh. Je trouvais ça génial. Non, j'ai vraiment bien aimé. Par contre, j'ai regretté de ne pas l'avoir vu au ciné.
Mmh.
Tu vois, il y a des films, tu te dis, putain, au ciné, ça doit être stylé, c'est une vraie expérience.
Ouais.
Et chez Watt, nul.
Dernière question.
Tu sais que c'est mes dernières interviews, là?
Pourquoi?
Après, j'arrête tout. Je disparais. Je veux que continuer sur les réseaux. Et puis après, s'il y a deux, trois trucs, de la presse plutôt, ça m'intéresserait. Mais sinon, après, j'arrête. Je vais disparaître.
Pourquoi tu préfères la presse? Parce que tu dois pas être là?
Ouais. Ouais, après, je veux plus qu'on me voit.
Pourquoi?
Parce que Houellebecq, il fait ça. Je vais faire pareil. Non, vraiment, parce qu'en fait, je pense que la rareté va être mon meilleur attaché de presse à un moment donné si je suis bien représenté, quoi. Et je pense que le film, déjà, tout se fera avec le casting et que je vais essayer de faire un truc comme ça. J'ai envie d'être vachement moins... En fait, moi, le fait d'être monté sur scène, j'ai compris que je voulais pas... Je fuis la célébrité. Je pense que l'anonymat, c'est génial.
C'est génial, vraiment. Et de plus en plus, j'ai envie de... Je pense que vendre un livre ou même un film, ça ne mérite pas de perdre son anonymat.
T'iras pas dans le quotidien.
Non, je pense pas. De toute façon, je leur ai envoyé mon livre et tout, ils m'ont pas calculé, donc maintenant, c'est la vengeance. Non, mais vraiment, après, je te dis ça, mais ça se trouve, sans doute, je vais revenir sur mes voix parce que je suis un connard et que j'ai aucune parole. Je suis quelqu'un de lâche, mais il y a de fortes chances que j'opte pour ça, là. Vraiment, j'ai envie
mais
de...
Mais genre, même les réseaux et tout?
C'est dur, les réseaux, parce que j'ai besoin de ça pour l'exercice, un exercice pour moi.
Mais t'as pas peur, des fois, de... Moi, j'ai ça beaucoup quand j'essaie de faire du contenu pour Internet, machin, des trucs tout petits. Bah, ça me prend tellement de temps que je me concentre pas sur des choses plus grandes, plus importantes. Et donc, la validation, la dopamine de, hein, des gens qui fait cette blague-là, ouais, mais t'aurais pu passer une heure sur...
Moi, je perds un temps fou avec les réseaux. Mais en même temps, ça me fait travailler. Parce que je mets des vannes qui vont me resservir. Par exemple, je la mets... Après, je fais, ouais, en fait, elle était bien, celle-là, je la revois dans la journée, je fais, ok, ouais, hop, il y a eu beaucoup de retours sur telle ou telle vanne, je fais, ok, je la mets de côté après, et puis je la réutilise autrement.
Ok.
Je sais comment les réutiliser, les... Mais ouais, c'est un exercice. Pour ça, peut-être que je vais faire un genre en ami proche. Je vais continuer, mais qu'en ami proche, tu vois. Je vais peut-être faire ça. Comme ça, je suis tranquille. Et... Parce qu'à un moment donné, ça va me retomber dessus, je vais me faire des ennemis, des trucs.
Mais
des
ça gens te stimule, les ennemis, pas. Non?
Ouais, mais je veux pas qu'ils me mettent des bâtons dans les roues, tu vois. J'aime bien me faire des ennemis tout seul dans ma tête, mais là, si c'est se faire des ennemis dans le milieu, et après, ça va commencer à me mettre des bâtons dans les roues pour rien, alors qu'à la base, je faisais juste une vanne.
Tu fais juste le gueulemont dans ton coin.
Ouais, tu vois, moi, là-bas, je suis un gueulemont, tu vois, et là, ça devient sérieux, mais non, les gars. Non, c'est pas hier, là, j'ai fait des vannes, là, récemment. J'ai reçu des messages de personnes, ouais, t'attaques, bip. Genre, j'attaquais une personne en particulier, je te le dirai après. Et en fait, non, pas du tout, c'est des vannes. Et point barre, quoi. J'ai même pas jugé la qualité de son travail. C'est juste deux, trois vannes. Mais comme c'est quelqu'un que tout le monde connaît et qu'il faut être gentil avec, et ben, on m'a dit, oh, mais t'es un malade. Ben non, mais moi, j'ai aucun problème à le vanner parce qu'on se connaît et que c'est pas grave. Il sait que c'est pas grave.
T'as pas des soucis si les gens te détestent?
Non. Plus tard, c'était une obsession, ça. Plus jeune, excuse-moi, c'était une obsession, ça.
Ah ouais?
Ouais, je supportais pas quand même pas.
Pourquoi?
Je sais pas. C'est le besoin de la validation et tout. C'est quand quelqu'un m'aimait pas, ça me dérangeait vraiment, vraiment. Plus maintenant.
Pourquoi?
Je sais pas, maintenant, je m'en fous, quoi. Vraiment, je m'en fous qu'on m'aime pas, parce que... Et pourtant, je suis pas dans le truc de, ouais, je m'en fous, fuck you! Moi, de toute façon, si tu m'aimes pas, ouais, parle à mon cul, ma tête est malade. Tu vois, des trucs comme ça. Je suis pas dans ce truc-là de vouloir en faire trop, genre, moi, je suis un rebelle. Non, c'est juste que... Vraiment, ça m'intéresse plus. Ça m'intéresse plus, j'ai plus le temps de penser aux autres, ce qu'ils m'aiment ou pas. J'ai plus le temps, j'ai
un film à faire.
J'ai un film, j'ai des gosses. Mais les gosses, ça prend du temps de ouf. Hein. Enfin, je fais un truc qui est dur de malade, c'est former des humains. T'imagines, là, je suis en train de. Moi, genre, moi, le gueulement que je suis, je forme deux humains, là. Donc, honnêtement, tout le reste, que telle ou telle personne m'aime pas, c'est pas je m'en fous, c'est que vraiment, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse plus. C'est. Mais pendant longtemps, ouais, t'as envie d'être aimé, t'as envie d'en être. Bah, là, récemment, j'ai vu des potes qui étaient à une soirée, et c'était des stories, ouais. Et je me disais, mais qu'est-ce que j'ai pas envie d'en être? Parce qu'en fait, ils y sont juste pour qu'on te dise, ouais, t'y étais, et ils vivent même plus leur soirée. Tu sais, une vraie soirée, c'est, hey, tu sais quoi, tout le monde met son téléphone dans une box, et maintenant, venez, on fait une soirée. Entre nous, on est entre nous, faut que ça reste entre nous, faut que ça se vive. Et non, story, ouais. Bah non, la story entre quand t'es avec des potes, non, bah non. Je suis pas d'accord avec ça. Voilà, quoi. Quoi d'autre, là?
Mais rien, merci.
T'as pas la question fatidique, là? Bah, un truc
pas,
un peu. Vas-y, dis-la, on verra, après tu coupes si c'est de la merde.
Non, mais là, j'en ai pas, mais des fois, souvent, il y a un truc
qui
te met du.
Qui sort.
Mais ouais. Du coup, qu'est-ce que tu veux?
Qu'est-ce que tu
veux? C'est quoi le dernier truc que t'as appris à ton sujet, Mourad?
Que je m'énervais quand j'avais chaud.
Ah ouais?
Ouais, de ouf.
Donc imagine si t'as chaud et t'as faim.
Oh là là.
Des patates.
Insupportable. Mais non, mais je te jure que je me suis rendu compte récemment que quand j'ai chaud, je stresse vite et du coup je m'énerve et je deviens insupportable. C'est vraiment, c'est une équation qui loupe jamais. Et j'ai une étude qui est sortie récemment, juste après que je m'en suis rendu compte, et qui parlait de ça. Et je dis, bah, je l'ai montré à ma femme. Je fais, tu vois pourquoi je suis un connard quand en été. Je fais, voilà, parce que j'ai chaud. Et du coup, j'aime bien. Par exemple, j'écris en hiver. J'écris quand j'ai froid. Je suis à l'aise et tout. Là, j'attends juste une chose, c'est qu'il fasse un peu frais, quoi. Hier, vas-y. Heureusement, il y a l'orage qui est arrivé et tout. Sinon, c'est un enfer. Quand il fait chaud, ça me saoule d'écrire. Mais ouais, j'ai appris ça sur moi. Et j'ai appris aussi que... Ah oui, c'est les gens qui doutent. C'est comme ça que ça s'appelle ?
Ouais.
Si on doit revenir sur ça, j'ai appris aussi que... qu'en fait, je douterais toute ma vie. J'ai toujours cru qu'à un moment donné, tu doutes pas, t'es sûr de toi et tout. Et maintenant, je suis conscient que toute ma vie, je vais douter de tout ce que je vais faire. Et c'est ça qui prouve que t'es en vie, en fait. Parce que sinon, enfin, que tu réfléchis. Le doute, c'est le prolongement de la réflexion. Si tu doutes pas, c'est que t'as un problème. Vraiment, que t'es un malade mental. Faut être zinzin pour pas douter, faut être zinzin. T'es obligé de douter. Et, c'est ça qui fait que tu vas devenir meilleur et que tu vas te battre pour être la meilleure version de toi-même. Même si j'aime pas trop les trucs de développement personnel. Mais c'est trop bien de douter.
Mais tu te perds jamais là-dedans?
Si, forcément. Forcément, mais en même temps, des fois, t'as des points de repère dans la vie qui font que tu te dis, ouais, mais là, je doutais et regarde, finalement, ça s'est bien passé. Tu vois, par exemple, quand je monte sur scène, il y en a plein, ils disent, ouais, il faut douter pour toujours être performant, tout ça. Moi, je suis pas du tout d'accord là-dessus. Il faut pas douter, faut pas réfléchir. Tu montes sur scène, tu fais ton truc, t'es sûr de toi, basta. Si tu commences à douter, donc, à réfléchir, donc t'as douté, c'est là que ça s'immisce en toi et que ça devient compliqué.
Ben, en fait, le doute, là, pour le coup, pour la scène, il faut qu'il soit en amont.
Oui.
Tu doutes avant, tu prépares assez bien, comme ça tout est sous contrôle.
Voilà, il faut douter pour être performant, mais une fois que tu vas monter sur scène et que tu... Là, ça y est, tu mets ton cerveau en off. Mmh. Faut être off, vraiment, faut pas réfléchir. Parce que dès que tu réfléchis, ça y est, c'est fini. C'est fini. Faut être un gogol dans la vie. Je te jure, dès que tu réfléchis, c'est fini. Et moi, j'ai toujours douté, ça m'a toujours aidé. Et avant, j'ai cru que c'était problématique de douter. Je me disais, ouais, en fait, je doutais de moi. En fait, non, pas du tout. Je m'interrogeais. C'est pas du doute, c'est de l'interrogation. Tu t'interroges sur tes capacités et après, tu travailles pour. Et puis après, et voilà, et ça va te suivre toute ta vie de douter pour devenir le meilleur, quoi. Voilà, c'est bien ça. C'est bien comme fin, quoi.
C'est très bien, moral. C'est super. Merci beaucoup.
Ouais, continue de douter, franchement, c'est bien.
Voilà. J'espère que l'épisode vous a plu. Je vous conseille vraiment très très fort de suivre Mourad Winter sur les réseaux. Je mets évidemment tous les liens dans la description. Je vous rappelle que son roman L'amour c'est surcoté est disponible chez Robert Laffont. Achetez-le, lisez-le, offrez-le. Il est vraiment incroyable. Et puis tant que vous y êtes, ben, abonnez-vous à ce podcast. Les gens qui doutent, c'est dispo sur toutes les plateformes habituelles. Vous pouvez aussi soutenir via Patreon ou Acast en faisant un don de la somme de votre choix. Et puis si vous voulez être sûr de ne rien manquer, vous pouvez aussi me suivre moi sur les réseaux, Fanny Ruet sur Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, partout. Des bisous. Et comme d'habitude, cet épisode a été mixé par le fabuleux Maxime Wattieu.